6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
Vous êtes sur Phare FM, on a passé la barre des 9h jeudi 3 juin aujourd'hui. Et puis tout au long de cette semaine, on vous parle des 100 ans de la radio. On a pour ce faire avec nous un invité, Hervé Gocho, un membre du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et président du groupe de travail radio et audio numérique.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous durant une heure pour parler de la radio, bien entendu, en plein cœur de cette fête de la radio, organisée par le CSA. D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir, avant de revenir sur cette fête de la radio, sur le rôle du CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, dont vous êtes membre ?
Oui, bien volontiers. Moi, j'aime bien commencer en fait, par le métier d'origine, si j'ose dire, du CSA, que souvent les gens ignorent. On voit souvent en nous le gendarme de l'audiovisuel, c'est-à-dire celui qui porte un képi et puis qui sanctionne quand il y a des bêtises qui sont dites ou faites à l'antenne. Mais en fait, bien en amont de ça, il faut savoir que le Conseil supérieur d'audiovisuel, comme d'autres autorités administratives d'ailleurs, est dépositaire d'un certain nombre de fréquences qui sont un bien national en fait, qui appartiennent à tous les Français, à vous, à moi, à tous les citoyens, et est chargé d'affecter en fait ces fréquences à des radios, comme la vôtre, ou à des chaînes de télévision. Ça, c'est gratuit, mais ça se fait en échange d'engagement de la part des différents médias en matière de pluralisme, de déontologie, de qualité des programmes, de musique, de fiabilité de l'information, etc. Tous ces engagements sont signés dans des conventions entre le CSA et les différents éditeurs. Et puis ensuite, le CSA vérifie qu'effectivement, les engagements sont respectés, et éventuellement, si les engagements ne sont pas respectés, alors on en arrive au gendarme audiovisuel qui peut éventuellement sanctionner. Mais le corps de notre métier, c'est de travailler véritablement avec les éditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre de mieux à l'antenne dans l'intérêt général.
Alors, votre rôle en tant que président du groupe de travail de radio et audio numérique, ce n'est pas qu'organiser cette fête de la radio, on va en parler dans un instant, mais c'est aussi dans ce cadre de la radio d'essayer de gérer, comme vous le disiez, ces fréquences, mais aussi le côté gendarme.
Oui, alors il y a la gestion des fréquences, l'affectation des fréquences aux radios, et puis il y a aussi les accompagner d'une manière générale. On essaye d'être ce qu'on appelle un tiers de confiance, d'être là pour tenir la main, être partenaire des radios, notamment, on voit en ce moment avec la crise sanitaire et économique, les radios qui sont des entreprises ou des associations, comme c'est votre cas, peuvent avoir des difficultés d'ordre économique, donc on voit comment est-ce qu'on peut essayer de les accompagner. Et puis on les accompagne ensuite dans toutes les questions qu'elles peuvent être amenées à se poser dans leur programme ou dans les relations avec les diffuseurs. Et puis on essaye, quand on affecte des fréquences, de faire en sorte que le paysage radiophonique soit harmonisé, que quelle que soit la zone où on est pour recevoir la radio, on va recevoir autant de radios associatives que de radios commerciales, que de grands réseaux nationaux, que de radios dédiées à l'information. On essaie d'avoir un équilibre qui fait qu'on a un espace médiatique où qu'on soit en France et quel auditeur qu'on soit pour recevoir une radio de qualité.
6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
Toujours en présence de notre invité Hervé Gocho, qui, on le rappelle, est membre du CSA, président aussi du groupe de travail radio et audio numérique. Et tout au long de cette semaine, on parle des 100 ans de la radio. Ça tombe bien, justement. On va parler ensemble, d'ailleurs, on va revenir sur l'histoire de la radio il y a 100 ans. Il y a sûrement des choses à dire, Hervé.
Exactement. Et c'est donc cette fête, cette grande fête qui est organisée tout au long de la semaine. Pourquoi avoir organisé, justement, cette fête maintenant, cette année précisément, Hervé Gocho ?
Alors d'abord, pourquoi avoir créé une fête de la radio ? Tout simplement, c'était une idée du président du CSA qui avait été mise l'année dernière. Et on a créé cette fête parce qu'elle n'existait pas. Bizarrement, on avait une fête de la musique, une fête du cinéma, et on n'avait pas de fête de la radio, alors que c'est le média préféré des Français. C'est un média qui est écouté par 40 millions de personnes chaque jour pendant plus de 2h30. C'est un média qui nous accompagne dans tous les pans de notre vie. On est tous auditeurs, on a tous de radio chez soi ou dans sa voiture, et pas de fête de la radio. Alors, voilà, elle est créée. Et alors, c'est vrai que ça tombe particulièrement bien d'en faire la première édition, puisqu'on espère qu'il y en aura d'autres, dès cette année, en 2021. D'abord, une raison historique que vous avez rappelée, c'est qu'en 1921, c'était la première émission radio, donc on fête 100 ans de la radio cette année. Et puis, en 1981, c'était la libération de la bande FM, et donc on fête les 40 ans de la bande FM telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie historique. Et puis, 2021, c'est aussi l'année de l'essor de la radio numérique terrestre, le DAB+, qui va s'étendre de plus en plus en France avec un démarrage d'antenne nationale à partir de la rentrée prochaine. Donc, ça vous est trois bonnes raisons pour que ça démarre cette année, qu'on ait la première édition de la fête de la radio.
Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, puisque ça fait 100 ans maintenant, comment ça a démarré cette radio du côté de la France, Hervé Gotchaud?
Bah, ça a démarré au meilleur endroit possible, à la Tour Eiffel, puisque c'est la plus belle et puis la plus grande antenne de radio de France.
C'est vrai.
Et ça a démarré effectivement le 24 décembre 1921 avec la première station comme ça. Et très vite, on a eu une dizaine de radios indépendantes et commerciales qui se sont déployées. En 1923, donc assez peu de temps après, il y avait le premier journal parlé, en même temps que le premier reportage en direct. C'était sur une radio qui s'appelait Radiola. Et ce premier reportage en direct, pour la petite histoire, c'était un match de boxe à la salle Wagram.
Waouh. Et donc, ça, c'est le début de la radio il y a 100 ans. Une autre date, vous l'avez citée tout à l'heure, c'est les fameux 40 ans de la libération de la bande FM. Que s'est-il passé il y a 40 ans pour tous les jeunes, hein, parce qu'il n'y a que moi dans ce studio-là qui aurait pu le vivre encore, j'étais tout petit. Ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années?
En fait, en 1945, hein, juste après la guerre, il y a eu une remonopolisation des ondes radio par l'État. Et donc, on avait seulement la radio publique, qui à l'époque s'appelait la RTF, et qui se déclinait avec France Inter, France Culture, France Musique, ça c'était à partir de 1963, qui se déployait, mais on n'avait plus de radio privée. Et dans les années 70, il y a eu deux types de radios privées qui se sont déployées. Il y avait sur le territoire national des radios pirates, donc des radios libres, comme on disait à l'époque. On se souvient de Carbone 14 et de tout un tas de radios, de Radio Caroline, qui étaient des radios en fait qui n'avaient pas le droit d'exister, mais qui prenaient ce droit pour émettre quand même. Et puis il y avait d'autres radios privées qui étaient ce qu'on appelait les fameuses radios périphériques. Vous avez déjà entendu ce terme.
Exactement.
En fait, on les appelait radios périphériques parce qu'elles émettaient depuis la périphérie de la France.
Et donc, ces radios périphériques, elles émettaient de pays frontaliers à la France. C'est bien cela?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas d'autorisation pour des radios privées en France, ces radios privées étaient installées à l'étranger avec des émetteurs qui étaient très forts, qui permettaient d'écouter cette radio, ces différentes radios sur le territoire français. Donc, c'était le cas, par exemple, de RTL au Luxembourg, d'Europe 1 en Allemagne, de Sud Radio en Andorre. Et donc, on avait les radios pirates sur le territoire national et les radios périphériques qui émettaient depuis l'étranger. Et puis en 1981, donc, François Mitterrand décide qu'il faut libérer la bande FM, c'est donc la loi du 9 novembre, et qui permet d'un seul coup à des radios privées, beaucoup qui étaient encore des radios associatives, puisqu'elles n'avaient pas le droit de faire de la publicité, ça s'est arrivé qu'en 1984, et donc les radios ont commencé à prendre possession, si j'ose dire, de manière légale de la bande FM. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que ces radios se sont déployées très très vite. On leur attribuait des fréquences, mais elles ne se souciaient pas de savoir si leurs émetteurs étaient très forts, pas assez forts, si elles ne brouillaient pas le voisin d'à côté. Donc, c'était un petit peu le Far West hein, les premiers mois. Mmh. Et c'est comme ça, donc, dès 1982, on va créer une autorité qui va être chargée justement de réguler ces fréquences pour éviter que tout le monde se marche dessus et que ce soit l'anarchie. Et c'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui est l'ancêtre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Et on va continuer de survoler l'histoire de la radio avec un petit zoom sur les 10 dernières années. Ça arrive juste après ça sur Phare FM.
6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
On va revenir un peu plus proche de nous pour parler de ces évolutions de la radio ces 10 dernières années. Hervé Gotchaud, elle a énormément évolué cette radio en termes de paysage, de consommation selon vous?
Oui, alors les deux, et en termes de paysage et en termes de consommation, elle a beaucoup évolué. Pourquoi? D'abord parce que, on parlait tout à l'heure de l'âge d'or de la FM à partir de 1981, il y a beaucoup de radios qui se sont créées jusqu'à, effectivement, il y a quelques années. Et en fait, aujourd'hui, la bande FM, elle est saturée. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est difficile d'avoir des nouvelles radios qui se créent parce qu'il n'y a plus trop de place sur la bande FM. De l'autre, on a une richesse radiophonique qui est énorme. On a près de 1000 radios sur le territoire national et c'est une offre qui est formidable. et qui trouve, en plus de ça, son public. Et puis, depuis une dizaine d'années, peut-être même depuis plus récemment que ça, on voit une évolution assez forte qui est principalement basée sur des nouveaux usages et une nouvelle technologie, c'est le numérique, avec le déploiement d'Internet, avec les web radios qui se sont là aussi développées puisqu'il n'y avait plus de place sur la bande FM, donc elles sont allées chercher un autre terrain pour pouvoir se développer et se créer. Et puis, dans les usages, le numérique, c'est ce qui permet d'écouter la radio, mais pas seulement, d'autres formes de sons sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. Et c'est comme ça qu'on voit se développer depuis quelques années maintenant les plateformes de streaming musical, mais aussi les podcasts. Et on va dire que la radio suit un peu le même genre de déploiement et de nouveaux usages que la télévision. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans le linéaire, mais on voit aussi le son à la demande se déployer. Et ça, c'est un vrai changement pour l'ensemble de l'univers de la radio, qui s'y adapte très bien d'ailleurs, puisque la radio aujourd'hui, on vient de créer Radio Player, qui est un agrégateur de toutes les radios de France. Les radios sont des gros producteurs de podcasts, donc c'est un univers qui va en s'étendant et avec des radios qui s'adaptent.
Et ben nous, justement, nous allons continuer de parler de cette importance de l'offre radiophonique au cours des 40 dernières années. Hervé Gauthier, vous êtes avec nous pendant toute cette heure. Je rappelle, vous faites partie du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça arrive juste après cette courte pause sur Phare FM.
Dans un instant, retour du Positive Morning sur Phare FM.
Alors, Hervé Gauthier, on parlait des évolutions de la radio ces 10 dernières années. J'ai envie de parler de l'importance de la pluralité de l'offre radiophonique au cours des 40 dernières années et dont le CSA, finalement, est le garant, j'allais dire, faire en sorte qu'il y ait une multitude de types de radios et de courants de radio qui soient disponibles sur la bande FM.
Oui, c'est sûr que quand on affecte une fréquence dans une zone à une radio, d'abord, on regarde quel est le paysage de la radio qui est déjà existant, voir si c'est un équilibre qui est respecté entre les radios commerciales, les radios associatives, les radios généralistes, les radios nationales, les radios d'information, pour que le paysage radiophonique soit le plus riche possible pour l'auditeur, parce que finalement, le CSA se porte en garant de l'intérêt général, donc on fait en sorte que l'auditeur soit le mieux servi possible. Et puis, on essaie de faire en sorte aussi que les radios puissent cohabiter dans un équilibre économique et médiatique les unes à côté des autres. Donc effectivement, on est très vigilant à ce genre de choses et avec une vision peut-être toute particulière, et je pense que vous y serez sensible, aux radios associatives. Pourquoi les radios associatives ? Parce que d'abord, elles sont un peu, d'une certaine manière, les héritières des radios pirates dont on parlait tout à l'heure, des radios libres, qui sont des radios qui sont faites souvent par des bénévoles, par des gens qui sont non professionnels. Elles ont un rôle qui leur est attribué particulier en matière d'aménagement du territoire, d'accès aux médias, d'expression des différents courants socioculturels, de soutien au développement local, à la protection de l'environnement, etc. Ça fait partie véritablement de leur mission, donc on est d'autant plus intéressé à ce que ces radios vivent. Et puis parce que souvent les radios associatives, elles occupent un terrain médiatique un peu particulier qui peut être un terrain communautaire, qui peut être un terrain confessionnel, qui peut être un terrain culturel particulier ou qui peut être tout simplement d'être dans des zones où il y a peu de paysages radiophoniques et donc parfois constituer l'un des seuls accès aux médias ou en tout cas aux médias audio pour les gens qui habitent dans cette zone. Les radios associatives aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Ça représente 2% d'audience cumulée, c'est 1 million d'auditeurs chaque jour et on est assez attaché à leur présence. Et pour qu'elles existent, il faut qu'elles puissent exister à côté de radios plus importantes, évidemment, mais qui ne vont pas non plus les écraser ou qui ne vont pas non plus leur faire une concurrence démesurée. Et ça fait partie effectivement de nos préoccupations d'avoir ce paysage radiophonique qui reste riche.
Et on va voir cela parce que ce paysage audiovisuel et radiophonique riche, eh bien, il va se développer encore plus avec le DAB+. Ça veut dire quoi DAB+? On parle de quoi exactement Hervé Gauthier quand on parle de DAB+ en radio?
Alors, mot à mot, alors c'est un acronyme, c'est vrai que les Français le connaissent encore mal. Ça veut dire Digital Audio Broadcasting, c'est-à-dire c'est la radio numérique. la radio numérique terrestre, vous savez qu'il y a la télévision numérique terrestre, là, on est en train de déployer la radio numérique terrestre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, en allumant votre poste de radio, pour peu qu'il soit équipé d'une puce DAB, de pouvoir écouter de la radio en son numérique. Donc, son numérique, ça veut dire un meilleur son, ça veut dire pas d'interférence, c'est-à-dire que soit vous recevez la radio, soit vous ne la recevez pas, mais vous n'avez plus les grésillements que vous pouvez avoir si, par exemple, vous êtes en mobilité sur votre autoradio. Vous allez avoir des métadonnées avec des informations sur un petit écran numérique sur votre poste qui va vous indiquer quelle radio vous êtes en train d'écouter, quelle émission, quel animateur, quel titre de musique, etc. Et puis, l'autre avantage du DAB+, c'est que, on disait tout à l'heure hein, que la bande FM était saturée, qu'il n'y avait plus de place pour de nouvelles radios. Oui. Là, le DAB+, lui, il est sur une autre bande de fréquence où il y a beaucoup plus de place et de disponibilité. Et donc, on va pouvoir créer des nouvelles radios et donc encore enrichir l'offre de radio. Actuellement, on a plus de 350 services de radio disponibles sur le DAB+. Et dans ces plus de 350 radios, il y en a une sur cinq qui est en fait une nouvelle radio dont on a trouvé le projet intéressant et qu'on a autorisé et qui a été créée finalement par et pour le DAB+. Et puis, dernier point, il y a aussi un avantage environnemental puisque aujourd'hui, on écoute la radio soit sur la FM, soit on va dire sur Internet hein, avec les applications, soit avec le DAB+, et on se rend compte, c'est une étude qui a été menée par la BBC, donc au Royaume-Uni, où le DAB+, est beaucoup plus développé encore qu'en France aujourd'hui, on se rend compte que d'un point de vue environnemental, le DAB+, est plus vertueux en consommation électrique que la FM et que Internet.
Alors, est-ce qu'on peut écouter le DAB+, aujourd'hui, et est-ce que ça va être possible d'écouter via cette technologie, la radio, partout en France, ça va être limité dans certaines régions, comment ça va se passer, Hervé Gotcho?
Alors, pour l'instant, la couverture du DAB+, c'est un petit peu plus de 30% de la population. On est en train de se déployer. Et comme je vous le disais au début de l'émission, d'ici à la fin de l'année, on aura encore largement accéléré. On espère arriver, on devrait arriver à peu près 50% de la population couverte d'ici à fin 2022. Vous voyez que ça va aller très vite. Alors, aujourd'hui, le DAB+, est disponible, on va dire, dans les grandes agglomérations. Et aux alentours de ces grandes agglomérations, on va dire parfois à l'échelle d'un département. C'est Paris, Lyon, Marseille, Nice, Lille. Il y a beaucoup de grandes villes qui sont desservies. Et puis petit à petit, on va allumer le DAB+ un petit peu partout en France pour avoir une couverture de plus en plus fine et que ça couvre l'ensemble du territoire. Dans les Outre-mer, pour l'instant, il n'y a pas eu d'appétit particulier des éditeurs pour déployer le DAB+, pour des raisons de coût principalement, mais il va y avoir vraisemblablement des autorisations d'expérimentation qui vont être menées, notamment, je pense, à l'île de la Réunion. Donc, petit à petit, l'ensemble du territoire va être couvert. Et puis, alors, comment le recevoir? Il faut avoir donc une radio équipée d'une puce DAB. Et depuis décembre dernier, c'est la loi. Tout appareil qui est mis en vente dans le commerce, tout poste de radio, que ce soit une radio ou un autoradio, doit forcément être équipé d'une puce DAB. Donc, si maintenant vous allez chez le marchand et que vous achetez un poste de radio, forcément avec vous pourrez écouter le DAB+, pour peu que vous soyez dans une zone où il y en a.
On parle du DAB+, hein, mais on va aussi parler du futur de la radio, des différents supports d'écoute.
On va parler justement dans cette intervention du futur de la radio. Hervé Gotcho, est-ce que le DAB+, c'est le futur de la radio et ça veut dire qu'on va prochainement ou bientôt couper la FM?
Alors oui, c'est le futur de la radio. Et non, on ne va pas couper prochainement la FM. Non, le DAB+, oui, c'est l'avenir de la radio parce que je pense qu'aujourd'hui, notre oreille à tous, elle est habituée au numérique. Hein, que vous allez au cinéma, sur votre téléviseur, si vous écoutez de la musique, que ce soit sur les plateformes de streaming musical ou que ce soit sur des CD, on est habitué à entendre un son numérique. Et il n'y a finalement plus que sur la bande FM qu'on a un son analogique. Donc ça, il faut que ça évolue parce que la radio est un média qui doit faire partie de son temps. Et de ce point de vue-là, d'avoir un son numérique, ça va changer beaucoup de choses. Et l'avenir de la radio est tourné vers le DAB+, incontestablement. Après, est-ce que ça va entraîner une extinction de la FM? Dans l'immédiat, non. dans l'immédiat, tant qu'il y a des radios sur la bande FM et tant qu'il y a des gens pour écouter la bande FM, il n'y a pas de raison que la bande FM s'arrête. Malgré tout, il faut savoir quand même que les éditeurs qui sont sur le DAB+ et qui sont également en général sur la bande FM sont obligés de régler des coûts de diffusion qui sont doubles. Et ça leur coûte assez cher. Donc, on ne sait pas combien de temps les radios vont effectivement pouvoir supporter de payer deux fois les coûts de diffusion. Et puis, on peut imaginer aussi, et ça c'est assez réjouissant, qu'un jour le DAB+ couvrira la France entière, qu'un jour tous les gens seront équipés d'une radio en DAB+, et que peut-être les radios elles-mêmes, les éditeurs, se diront finalement on a peut-être plus besoin de rester sur la FM, et à ce moment-là, la FM s'éteindra peut-être naturellement. Mais comme ce sont des technologies qui ne se substituent pas l'une à l'autre, il n'y a aucune obligation d'arrêter la FM maintenant. L'expérience des pays européens nous montre qu'en Norvège, par exemple, ils ont quasiment éteint la FM au profit du DAB+. Ils ont d'ailleurs plus d'auditeurs maintenant sur le DAB+ qu'ils n'en avaient sur la FM. Wow. La Suisse va éteindre également la FM d'ici début 2023 et il n'y aura plus que le DAB+. Au Royaume-Uni, on a une couverture quasiment nationale, en Allemagne aussi, et on peut imaginer que ça finira par arriver en France. Mais il n'y a pas d'urgence, hein, j'ai envie de dire, ce sont les radios qui décideront et les auditeurs qui décideront en fonction des usages quand la FM pourra s'éteindre.
Alors, vous parliez souvent d'Internet, de cette notion d'écouter la radio via une application. C'est ce qu'on appelle généralement l'IP, hein, écouter la radio via IP. Est-ce que c'est aussi une partie de l'audience, une nouvelle façon d'écouter la radio via les smartphones ou autres appareils connectés ou via une application type Radio Player, puisqu'elle s'est lancée il y a quelques semaines maintenant, cette application?
Alors oui, bien sûr, hein, c'est un usage qui est de plus en plus répandu. Il reste encore marginal, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous interrogez les gens, et nous on le fait dans le cadre de l'Observatoire de l'équipement des foyers, quand vous posez la question aux gens en disant comment est-ce que vous écoutez la radio, ils vous répondent avec une radio. Hein, dans 85% des cas, la radio est écoutée avec un poste de radio en FM ou en radio numérique. Mais c'est vrai que dans 15% autres, on écoute la radio de plus en plus directement sur Internet, en IP, en Internet protocole, comme vous faisiez remarquer le terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous êtes en mobilité, par exemple, si vous prenez le bus ou le métro et que vous voulez écouter la radio, vous allez le faire sur votre smartphone. Sur votre smartphone, vous allez le faire forcément avec une application qui est sur Internet. Radio Player en est un très bon exemple. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'avenir de la radio, on se rend compte que c'est comme pour l'avenir de tous les médias, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mode de réception ou un seul type d'usage. Ils sont multiples, ça peut être par la FM, par le DAB+, par Internet, ça peut être aussi de manière différée ou à la demande avec les podcasts. Ce qui compte, en fait, c'est que les gens écoutent la radio, et c'est ça le principal. Et je pense que, en fait, cette multiplicité des supports va être plus une garantie d'avenir de la radio qu'autre chose.
Hervé Gaucho, je le rappelle, vous faites partie du CSA, un Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et dans cette dernière ligne droite, dans quelques instants, on va vous laisser les quelques mots de la fin. Ça arrive juste après ça sur Phare FM.
6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
Dernière ligne droite de ce Positive Morning, c'est jeudi 3 juin. On parle de cette semaine des 100 ans de la radio avec notre invité Hervé Gaucho.
Et cette fête de la radio, on parlait du futur de la radio. En vous écoutant, finalement, on voit, Hervé Gaucho, que la radio a de beaux jours devant elle. On n'a même pas parlé des enceintes connectées qui font partie aussi des supports d'écoute, un des supports d'écoute de la radio.
Oui, c'est amusant. Si on parle des enceintes connectées, alors les enceintes connectées, ça se déploie pas mal en France. Alors, rien à voir avec les États-Unis. On utilise les enceintes connectées pour faire tout un tas de choses, pour ouvrir la porte du garage, fermer la fenêtre, les volets, etc. En France, en fait, les gens qui ont une enceinte connectée, quand on leur demande à quoi elle leur sert à quoi ? Principalement à écouter la radio. Ce qui montre bien que même avec des nouveaux usages, il y a beaucoup de gens pour écouter la radio. Alors, je sais bien que les audiences se tassent un petit peu, mais c'est un petit peu normal aussi. On voit bien qu'il y a toujours 40 millions de personnes pour écouter la radio chaque jour. Et je pense que l'avenir de la radio est assez radieux, finalement, avec toutes ces nouvelles technologies, parce que même quand on la compare, par exemple, aux plateformes de streaming musical, on se rend bien compte que la radio, ça reste quand même principalement des gens derrière un micro et qui réfléchissent à mettre des choses à l'antenne et à les proposer à des gens qui vont écoutée. Et ça, ça ne peut pas être remplacé par un algorithme, comme sur une plateforme de streaming, qui va décider un peu à votre place de la programmation, de ce qui va être mis à l'antenne. Mmh. C'est pour ça que je pense que la radio a encore de très très beaux jours devant elle.
Et on le pense aussi, nous qui faisons de la radio. En conclusion, un petit mot de conclusion pour cette après-fête de la radio, puisqu'on arrive l'avant-dernier jour de cette semaine spéciale. Comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses et comment va se passer la suite de cette fête de la radio ?
Ah ben, ça va bien se passer, parce que on voit bien que, d'abord, on voit bien que cette fête de la radio a trouvé son public, avec les auditeurs qui ont adhéré à cette idée de fête de la radio, avec cette radio qui est venue justement à leur rencontre. Et puis, on voit bien que la famille de la radio, parce que finalement, c'est un peu une grande famille de gens passionnés. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais ça passionne les gens qui font la radio, les professionnels. Ils se sont réunis pour faire cette belle fête. Je pense que cette première édition est une réussite et on va se donner rendez-vous pour l'année prochaine, pour la deuxième édition. On a déjà des projets pour l'année prochaine.
Waouh, ben disons qu'on a hâte de se retrouver aussi pour une nouvelle fête de la radio. Merci beaucoup en tout cas Hervé Gottschau pour votre
Merci
disponibilité. Et on vous rappelle que cette interview sera disponible aussi en replay sur notre site pharefm.com.